examinons-nous nous-mêmes. Examinez-vous vous-même. Vous avez souvent entendu cette phrase un peu en conclusion de certaines prédications très interpellantes qui sont données parfois ici au culte. Vous l'entendez régulièrement chaque dimanche aussi, lorsque nous prenons la scène. Cette invitation est présente dans l'Écriture à de nombreuses reprises. Elle a une portée qui est très individuelle. Et ce matin, pour déroger un petit peu à la règle habituelle, cette prédication qui nous touche personnellement, je voudrais apporter une prédication qui n'a pas une portée individuelle, mais une portée beaucoup plus collective. J'aimerais que nous nous examinions, nous, collectivement, en tant qu'Église, à la lumière d'un texte de la parole de Dieu que j'ai choisi dans le livre des Actes, au chapitre 15. Alors ce chapitre, je ne vais pas le lire. Vous pouvez ouvrir la Bible devant vous et me suivre au travers du récit que je vais en faire, parce que ce chapitre est long, et pour ne pas prolonger la prédication, je vais le résumer de la façon suivante. Il s'agit de la relation, d'une rencontre qui est de la plus haute importance. On est à l'église de Jérusalem, en l'an 49 après Jésus-Christ. L'église est née à Jérusalem, il y a en gros une vingtaine d'années, suite à la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Il y a là réunis des anciens, des frères, nous dit l'Écriture, mais également tous ceux que j'appellerai les grands pontes de l'Église. Il y a Jacques, le frère de Jésus, celui qui est à la tête de l'Église de Jérusalem, et cette Église, elle est particulière dans le sens où ses membres sont essentiellement des Juifs convertis. Plusieurs sont même probablement de ces 3000 convertis du jour de la Pentecôte, où les Juifs de Jérusalem et des Juifs de l'étranger, qui ensuite sont retournés dans leur pays, ont entendu la prédication de l'Évangile et sont venus à Jésus-Christ comme étant le Messie annoncé. Ils se réunissent à Jérusalem dans le temple, qui existe encore. Ils se réunissent dans les maisons. L'Écriture, dans les premiers chapitres du livre des Actes, nous laisse un peu cette perspective de cette organisation. Et ils se réunissent dans les synagogues. Cette église a été décimée par plusieurs vagues de persécution et elle a perdu, si on peut dire, entre guillemets, nombre de ses membres qui ont été dispersés dans la Judée, la Samarie, accomplissant ainsi le commandement de Jésus qui a voulu que l'évangile soit prêché à Jérusalem, en Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il y a des Juifs qui se sont implantés à l'étranger également, qui ont fondé là des communautés chrétiennes à majorité ou essentiellement juive. J'insiste là-dessus. À cette rencontre, il y a aussi Pierre. Pierre, l'ancien disciple de Jésus, qui peu de temps auparavant est déjà venu à cette église de Jérusalem pour leur raconter une histoire extraordinaire. Une vision de Dieu, un commandement de Dieu va. Une visite à Césarée auprès d'un païen, un soldat romain, un occupant, qui s'appelait Corneille. Et il a vécu là quelque chose de particulier. Corneille était un craignant Dieu, nous dit l'Écriture. Et quand l'Écriture dit un craignant Dieu, ça veut dire quelque chose de particulier. C'est un païen qui a adopté un certain nombre, mais pas toutes, les règles du judaïsme, et en particulier, il n'a pas adopté la circoncision. Ce sont les prosélytes, une autre catégorie, mais je passe sous silence le baptême de l'eunuque éthiopien qui était un prosélyte. Il pratiquait au moins une partie des exigences du judaïsme et l'évangile lui a été prêché, à lui et à toute sa famille, et ils se sont convertis avec une réception du Saint-Esprit d'une manière éclatante, identitaire, qui a pour but de montrer que l'expérience que vivait ce païen dans la foi était du même type que celle que les Juifs avaient vécue le jour de la Pentecôte. Cela a fait du bruit quand Pierre est venu raconter cela à Jérusalem. Et au verset 3 de Acte 11, il est dit « Mais quoi ? Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Et sous-entendu, plus que cela, tu as peut-être pris la scène avec eux. sous-entendu plus que cela, voilà, tu les as amenés à l'Évangile, ils sont maintenant plus ou moins associés à nous. Mais au final, après que l'apôtre Pierre ait attesté que c'était Dieu qui l'avait envoyé, on avait bien dû reconnaître que la repentance était également accordée aux païens. Et puis, à cette rencontre sont aussi venus Paul et Barnabas. En fait, ce sont eux qui ont voulu cette rencontre. Ils sont de retour de leur premier voyage missionnaire en Asie mineure, c'est globalement la Turquie actuelle. Dans plusieurs villes, ils ont d'abord rendu visite aux Juifs convertis, des Juifs de l'étranger, et ils se réunissaient dans les synagogues. Ils ont été bien reçus dans un premier temps, mais à Antioche, dans cette ville, les Juifs non convertis de la synagogue leur ont fait une opposition telle qu'ils ont décidé d'un changement de stratégie et ils ont dit, changement de stratégie qui nous paraît insignifiant à nous, mais qui était révolutionnaire. Nous allons maintenant vers les païens. Et ils ont prêché l'évangile aux païens. Et ces païens, les vrais, hein, des vrais, qui n'étaient même pas des craignants Dieu, qui ne pratiquaient rien du judaïsme, qui ne connaissaient même pas Dieu, ces païens idolâtres, eh bien, ils se sont convertis à Christ et il a fallu les associer en masse à cette église composée essentiellement d'anciens juifs, de juifs, judaïsants, circoncis, pratiquant la loi de Moïse. Et l'association n'a pas été sans mal. Et on en arrive ici au cœur du problème. Parce que le cœur du problème, quel est-il ? À Jérusalem, comme dans ces villes de l'étranger, donc les juifs convertis ont une conscience profonde, identitaire, qu'ils sont le peuple de Dieu, eux. C'est à eux que les promesses ont été faites. Et si ils ont découvert Christ, ce n'est qu'un plus, ils sont maintenant convertis, certes, au christianisme, mais ils restent persuadés que eux seuls sont le peuple de Dieu, appelés à l'honorer et à le servir. Eux, donc, des circoncis observateurs de la loi, comptant parmi leurs rangs de nombreux ex-pharisiens, et vous savez par les évangiles combien les pharisiens étaient attachés à la loi, eh bien, ils trouvent tout simplement inconcevable d'accueillir dans leurs rangs des païens, des vrais, certes convertis, mais des païens tout de même, non circoncis, non observateurs de la loi, et qui ont découvert en Christ la repentance et le sujet de leur salut. Comment même manger ensemble ? C'était quelque chose qui, pour un juif, était culturellement et religieusement inconcevable avec ces gens. Et donc, comment prendre la scène avec ces gens-là, selon le commandement que le Seigneur avait laissé ? Inconcevable. Voilà le cœur du problème. Et la discussion, donc, va s'ouvrir et une décision va en découler. Et cette discussion, elle va débuter par le rappel de Pierre, de son expérience avec Corneille, par le rappel de Paul et Barnabas, qui ont été devant l'évidence que ces païens se sont réellement convertis à Christ. Ce rappel, et finalement, donc c'est Jacques, le leader de l'église de Jérusalem, de cette église constituée de juifs, qui va prendre la parole. Et référence va d'abord être faite, et remarquez bien la stratégie, la référence va être faite à l'Écriture, cité de tête trois textes des prophètes de l'Ancien Testament qui annonçaient déjà l'accès au Seigneur ouvert à toutes les nations. Bon, c'était déjà au cœur de la bénédiction d'Abraham, mais les Juifs l'avaient depuis longtemps oublié, ça. Hein. Deuxième chose, dans cette stratégie, une proposition osée qui va être faite par Jacques, le Juif lui-même, très attaché au judaïsme, à savoir que la loi et la circoncision, si importants pour les Juifs, ne s'imposeront pas aux païens dans l'Église. On ne les obligera pas à ça. Mais par contre, par égard pour les Juifs, ils respecteront ce que j'appellerais un minimum syndical. Parce que si vous regardez, c'est quand même vraiment le minimum qu'ils leur ont demandé à ces païens, à savoir de s'abstenir de l'idolâtrie, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Mais il y a là derrière, sous-entendu, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, comme tous les Juifs, s'occupera du reste. Et la suite nous a montré que tout le reste est venu par la compréhension de l'Écriture, la prédication de l'apôtre Paul dans toutes ses églises et la compréhension des attentes d'un Dieu saint pour les païens également. Et cette proposition, elle fait le consensus. Tout le monde se rallie à elle. manifestement, le Saint-Esprit est passé par là. Et d'ailleurs, ce sera dit un petit peu plus loin dans l'annonce qui sera faite. Troisième étape de cette proposition, décision qui va en découler, c'est qu'une information sans équivoque va être faite dans toutes les églises et on va envoyer, dans toutes les églises existantes à cette période-là, on va envoyer 4 émissaires chargés de délivrer avec toute confiance la décision, le cœur de la décision qui a été prise au sein de l'Église de Jérusalem dans ce concile entre les anciens, les frères Pierre, Jacques, Paul, Barnabas, etc. Donc toutes les églises vont être mises au courant. Et ce qui va en résulter, c'est qu'il y a une immense joie dans toutes ces églises, en particulier de l'étranger, que de savoir qu'ils sont maintenant un seul peuple, unis non pas par un formalisme d'observation de la loi du judaïsme passé, mais unis par la personne de Jésus-Christ uniquement. Au cœur de ce processus, il y a constamment en arrière-plan une motivation qui est manifeste, même si elle n'est pas citée explicitement, mais toute la démarche va dans ce sens. C'est l'unité de l'Église au lieu de l'explosion. Parce qu'on a du mal à le percevoir, nous, maintenant, qui vivons l'Église comme une réalité, voilà, c'est un état de fait. Mais à ce moment-là, il y a eu une crise qui menaçait l'unité de l'Église et qui risquait de déboucher sur une explosion entre une Église des Juifs convertis et une Église des païens convertis. Et pour nous, aujourd'hui, nous sommes majoritairement, parmi nous ici, je ne connais pas tout le monde, chrétiens d'origine païenne. Je vais vous épargner éventuellement de faire lever les mains à ceux qui seraient circoncis du judaïsme, observateurs de la loi de Moïse. Certains seraient peut-être mal à l'aise, je ne sais pas. Et pourtant, nous bénéficions encore aujourd'hui dans l'Église, 20 siècles plus tard, nous bénéficions de cette décision qui a été prise, de cet apaisement qui a été apporté à l'Église, et de cette réforme d'un état d'esprit qui était présent parmi les Juifs convertis jusqu'à présent, et c'était l'essentiel de l'Église pendant 20 ans, les Juifs convertis, d'abord et avant tout. Nous sommes au bénéfice de cette décision qui fait que nous ne nous posons même pas la question, lorsque nous venons au Seigneur, de savoir si nous devons nous faire circoncire et observer la loi de Moïse. Ce n'est plus une question. Pourtant, cette affaire, elle nous parle, et je voudrais que l'on en tire quelques enseignements, quelques principes auxquels notre groupe d'anciens dans l'Église de responsables, avec les diacres ici, est vraiment attaché. La première chose qui apparaît ici, c'est qu'il n'y a rien qui, dans l'Église, soit ancré à un tel point qu'on ne puisse le changer si l'Écriture le demande ou le suggère. Il n'y a rien qui soit intouchable si l'Écriture le demande ou le suggère. La tradition, l'habitude que l'on a des choses, on a toujours fait comme ça jusqu'à présent, ne peuvent résister à la force de persuasion de l'Écriture. Paul, comme Jésus, se sont confrontés à ces traditions toutes humaines qui étaient pesantes et injustifiées aux yeux de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 7, verset 13, dans Colossiens au chapitre 2, verset 8, des traditions humaines que l'apôtre Paul cherche à renverser. Nous allons bientôt, dans une étude biblique que Raph nous présentera, étudier le cœur de l'histoire de la réforme dont nous sommes héritiers, donc sur un plan historique d'abord, et aussi le cœur de la problématique théologique qui a été posée au moment de la réforme. Les précurseurs de la réforme, les précurseurs des réformateurs ont inventé une formule latine qui veut dire, qui se dit en latin « Ecclesia semper reformanda ». Nous ne sommes pas retombés dans la messe en latin, hein, rassurez-vous, je me limiterai à ça. « Une église toujours en train de se réformer ». Et en opposition à l'Ecclesia reformata, c'est-à-dire qui a déjà été réformée, point, c'est plié, on n'en parle plus. Mais une église, ils ont voulu que l'église soit constamment en train de réexaminer à la lumière de l'Écriture ce qu'elle doit ou ce qu'elle peut changer. L'Église est un corps vivant, ce n'est pas un cadavre figé dans le conservatisme, dans l'immobilisme. Et les anciens dans l'Église ont à cœur, dans notre Église, de conserver cette attitude régulièrement, réexaminer ce que l'Écriture ne fixe pas dans ses commandements, ce que l'Écriture n'indique pas dans les modèles qu'elle donne à voir ou dans les principes qu'elle pose. Tout ceci, le réexaminer régulièrement, sans oublier non plus qu'il existe de bonnes traditions, de bonnes habitudes à ne pas abandonner. L'Écriture, deuxième principe qui ressort de ce texte, comme seul juge-arbitre. Que ce soit pour le statu quo ou pour le changement, rien ne doit ni ne peut se faire sans elle, sans l'Écriture. C'est par la lecture de l'Épître aux Romains qu'un Luther a envers et contre tout bravé l'Église de son temps et imposé la primauté de la grâce que nous avons si bien chanté ce matin. C'est sur l'Écriture, l'Épître aux Romains. En matière de doctrine, les Juifs de l'Église de Bérée nous ont donné un exemple. Lorsque l'apôtre Paul prêchait parmi eux ce qui pouvait apparaître, donc pour ces Juifs, attachés encore au judaïsme, circoncis, observateurs de la loi de Moïse, du même type que ceux qui étaient à Jérusalem, pour ces Juifs, c'était une nouvelle doctrine que l'apôtre Paul prêchait. Et il nous est dit qu'il réexaminait régulièrement dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur annonçait était exact. Pardon. En matière de doctrine, j'insiste bien, en matière de doctrine, la révélation a été complète une fois pour toutes dans l'Écriture. Même si, sur quelques points peut-être secondaires, des chrétiens de diverses sensibilités peuvent avoir une compréhension qui diffère sur des choses mineures, des nuances simplement. Mais pour tout ce qui est clair, qui est le cœur de la doctrine enseignée dans l'Écriture, la révélation, elle est claire, elle est définitive, et toute déviance à cette révélation, comme un salut par les œuvres, par le mérite, dont on a parlé à plusieurs reprises ce matin, doit être traitée avec la plus ferme résolution, cette même résolution qui a été celle de ce concile de Jérusalem. C'est de dire non, c'est de changer les choses, c'est de faire une œuvre de réformateur, comme celle qu'ont fait les réformateurs. Mais il faut reconnaître aussi que l'Écriture ne dit pas tout. Et sur les formes et les pratiques, et j'insiste bien sur cette distinction avec la doctrine, sur les formes et les pratiques, l'Écriture nous laisse une certaine marge de latitude. Certaines de ces formes et de ces pratiques nous sont commandées. D'autres sont données en modèle, comme un bon modèle. Pour d'autres encore, elles sont simplement passées sous silence. Et c'est donc avec souplesse et sagesse qu'il faut avancer dans cet espace de liberté. L'Écriture ne fixe pas le fond d'écran de PowerPoint que j'utilise depuis 15 ans et qui fait bien rigoler les jeunes. Je vous promets que si ça vous fait plaisir, je vais le changer cette année. Plus sérieusement, l'Écriture ne fixe pas le nombre ou le type de réunion que nous devons avoir dans l'Église, que l'Église doit tenir, ni l'ordre et la forme du culte même, mais elle pose la mission essentielle de ces rencontres et de l'Église, la mission d'adorateur, et ce autour de quoi nous devons centrer nos activités, nos perspectives, nos programmes, notre culte en particulier, à savoir l'enseignement, la communion fraternelle, la célébration de la scène et les prières. C'est ce qui était au cœur de la vie de l'Église de Jérusalem, précisément de la première Église. L'Écriture ne fixe pas les moyens de l'annonce de l'Évangile. Par quels médias cela doit passer? Mais elle rappelle la centralité du message de la croix et de la repentance en Jésus-Christ à proclamer. Et toute proclamation de l'Évangile, quel que soit le moyen utilisé, qui ne resterait pas centré sur ces aspects essentiels, serait non conforme d'une certaine façon à l'Écriture. L'Écriture ne fixe pas le type de musique des hymnes de l'Église que nous interprétons ici. Mais l'Écriture nous rappelle que nous devons nous garder de la mondanité et que nous devons considérer le caractère édifiant que doivent avoir les textes de ces hymnes. Il est dit « entretenez-vous » par des psaumes et des hymnes, etc. L'Écriture ne fixe pas les divers et variés intervenants dans les réunions publiques de l'Église, comme le culte par exemple. Elle ne fixe pas qui doit porter les plats et les plateaux de la scène. Elle ne fixe pas qui doit porter les corbeilles de recueil de la collecte. Mais elle définit très clairement certains autres principes auxquels nous ne pouvons pas déroger. C'est à qui est réservée la charge de l'autorité de l'enseignement public dans l'Église. L'Écriture le codifie cela. L'Écriture ne définit pas le statut plein temps ou non de ceux qui servent l'Église. Mais très clairement, elle fixe le caractère collégial que doit avoir l'exercice de l'autorité dans l'Église pour sa conduite. L'Écriture ne fixe pas, je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Et plusieurs de ceux, ou presque tous ceux que j'ai cités ici, ce sont ceux que dans le passé, les anciens de cette Église, présents ou passés, ont eu à considérer et à se dire « mais nous avons là des principes que l'Écriture commande à respecter, des modèles qu'elle nous donne, ou nous avons là, au contraire, un champ d'initiative que l'Écriture nous permet et dans lequel nous devons nous engager avec sagesse, amour et respect des uns pour les autres. » Nous avons besoin de garder l'équilibre entre le prescrit, entre le suggéré dans l'Écriture, les épîtres, le livre des Actes, et la référence à des principes qui sont intangibles, et enfin l'équilibre avec la libre initiative qui nous est laissée selon les individus, les temps, les cultures. Nous acceptons volontiers que les chrétiens africains d'une autre culture musicale aient des hymnes d'un rythme différent du nôtre et chantés selon un mode différent. Ils n'en glorifient pas moins le Seigneur. Ils n'en sont pas moins fidèles à l'Écriture. Nous le concevons. Quatrième principe que je voudrais appeler ici, l'unité comme motivation et la persuasion comme méthode. Ce concile de Jérusalem nous en donne l'exemple. L'affaire était grave, l'affaire était sérieuse, beaucoup plus que les problématiques que nous nous posons parfois de nos jours dans nos églises. L'Église, d'une part, n'est pas un terrain propice aux révolutions, aux coups de force, aux chambardements intempestifs, aux allers-retours d'une façon de faire à une autre. L'Église a besoin de stabilité et ses idées de révolution, de chambardement sont parfois des péchés de la jeunesse, il faut le reconnaître aussi, mais pas que d'eux d'ailleurs. Dans l'Église, tout doit se faire avec courage, avec patience, avec volonté de préserver l'unité dans l'amour et la vérité. C'est ce qui émane de ce récit d'Actes 15, véritablement. Si vous lisez tout le discours que je n'ai pas lu, les échanges respectifs entre Pierre, Paul, Jacques, etc., les prises de position et la décision finale, on retrouve un climat paisible de compréhension mutuelle, mais de patience également. Patience pour que l'Esprit de Dieu œuvre dans les consciences. Et au final, dans la décision qui a été prise et qui a été envoyée aux diverses églises, donc de l'étranger, il est dit que le Saint-Esprit leur a dicté, et c'est conformément au Saint-Esprit que ces décisions ont été prises. Cette devise, les anciens, les responsables de l'Église, veulent la garder au fond du cœur, en permanence dans la conduite de l'Église. Elle est devenue la devise du protestantisme à l'issue de la Réforme. Et elle nous tient à cœur. Constamment réfléchir à notre conformité à la parole de Dieu. Être toujours prêt à infléchir ce qui doit l'être pour la fidélité et le bien de ceux qui composent l'Église. Vous et moi, pour que nous puissions croître dans le Seigneur, dans la paix et dans l'amour les uns avec les autres. Cette vocation à nous examiner nous-mêmes, bien entendu, nous l'avons à titre individuel, examiner à quel point nous-mêmes sommes peut-être attachés plus à la tradition qu'à la conformité à l'Écriture, aveuglés sur l'espace de liberté que l'Écriture nous laisse quant à certaines formes, certaines pratiques. Mais nous avons besoin, en tant qu'Église aussi, et nous en avons besoin particulièrement au sein du Conseil d'anciens et de responsables, de diacres, pendant l'année qui vient, pendant ce ministère qui s'ouvre encore pour nous cette année, d'avoir présent à l'esprit constamment cette pensée que nous restions vraiment attachés à la parole de Dieu, à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, et que la conduite de l'Église puisse se faire sous cet angle-là, sous la conduite du Saint-Esprit, pour le bien de l'Église. Que le Seigneur vous aide à prier pour les anciens et les responsables dans cette perspective. Que le Seigneur nous aide à avoir tous des cœurs souples pour ne pas rester ancrés dans des traditions qui n'auraient pas de fondement biblique, mais ouvert à des perspectives que le Saint-Esprit ou la nécessité du présent pourrait nous dicter, toujours dans la conformité au modèle, au principe de la parole de Dieu. Amen.